Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons dans l'émission Bienvenue en Europe avec Michel Bourges-Mounouri. Et eh bien, nous allons, comme d'habitude, dérouler l'agenda européen dans un premier temps, voir quels sont les points sur lesquels il y a lieu de se réjouir, au contraire de s'inquiéter, et puis évoquer l'avenir. Et l'avenir, c'est la préparation des élections européennes au suffrage universel. Comment ? Et puis voir aussi les problèmes en suspens. Alors les problèmes en suspens, eh bien, c'est le Brexit. Alors assez curieusement, les Anglais qui ont voté pour le Brexit, eh bien, il semblerait que les milieux économiques aimeraient bien qu'on puisse voter en sous-main contre le Brexit. Alors comment faire pour qu'officiellement on soit dehors, mais qu'on puisse économiquement être dedans ? Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Donc on voit que les opinions changent et peut-être... C'est le lieu de, et en tout cas nous qui faisons cette émission Bienvenue en Europe, nous sommes favorables à l'Europe, ça je pense que vous l'aviez deviné. Nous pensons qu'il est très important de se rendre compte de ce fait européen qui est regardé un peu, disons, avec de la curiosité, mais quelquefois aussi beaucoup d'envie. Donc regardons aussi les choses de façon positive, parce que nous sommes Européens et nous profitons de l'Europe. Alors, ceci dit, pour l'agenda européen, quelles sont grandes nouvelles ?
Oui, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, moi, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que l'Europe m'a toujours paru comme étant non pas le problème, mais la solution. Et la solution précisément à nos problèmes. Alors si les Britanniques s'en aperçoivent un peu tardivement, ben, c'est dommage pour eux, mais également aussi pour nous, mais les choses sont ce qu'elles sont. Alors effectivement, en ce qui concerne l'agenda, le Brexit a été une part importante du temps qui vient de s'écouler, notamment la semaine du 6 février au 9 février. Il y a eu un nouveau cycle de négociations avec nos amis britanniques, qui n'a pas abouti à grand-chose, sinon de faire le point de tous les problèmes qui sont encore en suspens. Donc on peut rappeler qu'à la fin de l'année dernière, il y a eu un accord pour passer à une nouvelle phase de négociation. Et donc on en est maintenant à ce niveau-là, où il s'agit à la fois de préciser les points sur lesquels il y a un accord de principe, mais pas dans les détails, en ce qui concerne la première phase. Cette première phase, il s'agit particulièrement du problème irlandais, du fait de la séparation de l'île entre le nord et le sud. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de frontière entre les deux, sachant que l'une des deux parties quitte le marché unique. Donc il y a des complications. Et on attend toujours... quelles sont les solutions que les Britanniques vont trouver à cet égard. Il y a le problème des citoyens, à la fois britanniques et européens, quelle sera leur position juridique une fois que...
Quel va être leur statut aussi.
Leur statut. Il y a le problème de la feuille de route financière que le Royaume-Uni doit... doit régler en quittant
l'Europe.
Et alors il y a maintenant quelque chose qui est nouveau, donc c'est maintenant une phase transitoire qui s'ajouterait au départ qui était prévu en mars 2019. Ce serait reporté d'une année supplémentaire. Et ce qui se passe actuellement, c'est que les Britanniques disent oui, on aurait tout à gagner à ce qu'on puisse, par facilité, ce qui peut se comprendre, compte tenu de la technicité des problèmes qui se posent, il faudrait un an de plus pour pouvoir sortir définitivement de l'Europe. Mais ils veulent, pendant ce temps-là, avoir toujours les mêmes avantages. Or, l'Europe, le Conseil, la Commission européenne a présenté un document qui a été validé par le Conseil et qui dit non, une fois que vous êtes parti, vous êtes parti.
Oui, parce
pendant la période de transition, c'est bien, on va regarder comment on peut faire au mieux, mais le droit européen s'appliquera, mais vous, vous n'aurez plus le droit de siéger dans nos instances.
Oui, alors c'est là qu'on voit aussi, alors je crois aussi que c'est important pour nos auditeurs de voir que les députés, eh bien pour l'instant on est en train de se dire, les 76 députés, les 73 députés britanniques, leurs sièges vont être répartis, certains sièges mis en réserve, d'autres répartis. Alors vous avez certainement des précisions à nous donner là-dessus. Et puis il y a aussi des structures européennes qui étaient installées en Grande-Bretagne qui les ménagent. Et par exemple, c'est le cas de Galileo. Galileo, un résultat, enfin je trouve que ça c'est quelque chose, une réussite de l'Europe qui quitte le Royaume-Uni pour s'installer au soleil. Je pense que les Espagnols sont très contents d'accueillir les structures de Galileo.
Oui, effectivement, on leur a même reproché d'avoir tout fait pour que Galileo aille chez eux, mais c'est de bonne guerre, entre guillemets. Tout ceci fait partie effectivement de l'agenda européen qu'on a pu noter ces derniers temps. À la fois, ce qui vient de se passer, il y a eu une session plénière tout à fait importante cette fois-ci, donc début février. Et puis, il est prévu également des suites à travers le Conseil européen qui se tiendra fin février, un Conseil européen informel, mais où il y aura justement des questions liées à ce qui a été débattu dans le cadre de la session plénière du Parlement européen. On va y revenir. Et puis, pour la perspective, le 4 mars prochain, il y aura des élections très importante en Italie, puisque un nouveau gouvernement devrait en ressortir, donc on pourra peut-être en toucher un mot. Et également, parallèlement, également à cette date, le vote du parti socialiste, entre guillemets, SPD allemand, qui devrait valider ou non l'accord de coalition avec la CDU de Mme Merkel. Donc on a un champ
encore
d'action qui
des
est
élections
assez rempli. Et tout à fait. Donc on peut y revenir. Alors si...
les sièges de députés anglais, là.
Suite au Brexit. Donc oui. Le Brexit, une fois que les Britanniques s'en vont, leurs sièges parlementaires au Parlement européen, évidemment, ne sont plus représentés par les Britanniques. Ce qui fait que dans le cadre des 751 parlementaires à l'heure actuelle, le Royaume-Uni avait 73 sièges et les 73 sièges devraient être donc répartis. Soit une partie qui serait, c'est ce qu'a proposé le Parlement européen ces derniers temps, il a proposé d'en geler 46 sur les 73 qui seraient réservés soit de futurs
candidats européens,
soit qui seraient carrément éliminés, soit qui auraient pu être le sujet d'élections transnationales, non plus dans le cadre d'un pays, mais au niveau européen global. Et puis, une autre partie de ces 73 sièges britanniques, 27, qui, eux, seraient redistribués entre 14 pays. Pour essayer de rééquilibrer de manière plus juste la représentation des citoyens compte tenu du nombre de la population dans ces pays. La France, à ce titre, de ses 74 sièges actuels, en gagnerait 5 de plus. L'Allemagne, elle, resterait, c'est elle qui a le plus grand nombre compte tenu de sa population, elle resterait à 96 comme actuellement. L'Italie en gagnerait 3, l'Espagne 5. Et alors tous les autres plus petits pays au niveau des populations gagneraient un ou deux selon le cas.
Oui, en tout cas, là, on voit une réalité. C'est ça qui me paraît intéressant.
Il y a une réalité, c'est important de voir ça. Alors, par rapport à tout ceci, alors les listes transnationales, parce qu'il y a eu un débat parallèlement
à
cette répartition, les élections futures, oui, mais qui étaient prévues dans le cadre de cette prochaine législature européenne, donc en 2019, il était envisagé, notamment par la France, de constituer des listes transnationales et de profiter des sièges britanniques rendus vacants pour qu'une partie serve à constituer des listes à partir, non pas à partir d'un seul pays, mais à partir de plusieurs pays. C'est-à-dire qu'il y aurait des représentants de plusieurs nationalités dans une même liste et qui ne dépendraient pas d'un qui ne
dépendrait
relèverait
pays,
pas
qui...
d'un vote national, mais d'un vote européen, mais évidemment validé
ça,
au niveau
national.
Ça, c'est
un peu complexe.
C'est très complexe. C'est, juridiquement c'est... parlant, c'est également extrêmement complexe. Et puis, ceci a été, pour certains, indiqué comme un plus pour rapprocher, pour donner une dimension européenne véritable auprès des citoyens, mais les avis sont tout à fait partagés, également au niveau des pro-européens, et le Parlement européen lui-même, lors de cette dernière session, a rejeté cette idée et
donc
a dit
on
non,
parle plus.
On n'en parle plus, on en reste là. Mais le Conseil, et notamment le Conseil informel qui se tiendra fin février, le 23 février, devrait quand même soulever la question. Bon, le cas échéant. Bon, c'est une affaire très complexe, on en reparlera peut-être dans encore quelques décennies, on verra, mais pour l'instant, l'affaire semble vraiment terminée.
Mais quand même, alors, le fait de voter pour le Parlement européen est quelque chose d'important, puisque les citoyens ont des choses à dire, parce que maintenant, on voit quand même que l'Europe prend des décisions, et par exemple sur le plan international, contre des pays qui ont, ou des entreprises qui... disons, on fait de l'évasion fiscale. L'Europe vient de donner des amendes de 1 milliard d'euros. C'est quand même important. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même des... L'Europe peut apparaître comme ayant une réalité et pas simplement des gens qui discutent et... je voyais dans les cours républicains qui tripatouillent le système électoral. Non. Il y a aussi des choses qui avancent. Il y a aussi des... notamment en ce qui concerne les chantiers qui nous intéressent tous parce qu'ils sont de la civilisation européenne, le chantier des droits de l'homme, par exemple. Moi, je suis assez intéressée de voir que les parlementaires européens s'élèvent contre des pays qui commencent à revenir ou à diminuer ou à tenter de limiter les libertés individuelles. Je crois que là, il y a des choses qui sont importantes.
Le Parlement européen, il n'est pas toujours vu d'une manière... juste finalement au niveau des citoyens.
Il paraît loin, mais...
Il paraît loin, mais c'est quand même l'expression démocratique de nos différents pays partenaires. Alors cette élection a lieu tous les 5 ans, et justement dans le cadre de cette session parlementaire, ont été abordés un certain nombre de sujets. Là, on vient d'en voir un qui est constitué par la répartition des sièges britanniques. Mais il y a, par exemple, au niveau français, et c'est à la veille de notre enregistrement, le Parlement français va justement débattre du mode d'élection européen pour 2019, à savoir est-ce qu'on retire les circonscriptions de circonstances, il faut bien le reconnaître, qui avaient été établi en France, et on reviendrait à une liste nationale. Donc, c'est-à-dire que chaque parti présente au niveau national une seule liste qui est élue ensuite à la proportionnelle. Alors ça, c'est un sujet national, bien sûr, mais qui a une répercussion au plan européen. Parce qu'au niveau européen, il faut que les partis qui seront représentés dépassent le niveau national, bien sûr. Donc il y a des groupes parlementaire, et le plus important, c'est le PPE, qui est constitué des conservateurs, notamment allemands. Il y a ensuite les socialistes et démocrates, SD, et les libéraux, disons pour les trois principaux. Or, cette répartition va donner l'indication, suite au vote en 2019, de la future orientation de ce que devrait être l'Europe. Alors, est-ce que c'est une Europe plus libérale, pas assez libérale, une Europe, etc. Donc, tout ceci est important, et dans ce débat à l'heure actuelle, il y a ce que l'on appelle les Spitzenkandidaten, c'est un mot allemand, pour montrer que, suite au dernier vote du président de la Commission européenne, qui était le représentant du parti le plus important au niveau du Parlement européen, eh bien c'est ce parti le plus important qui a décidé de la nomination du président de la Commission européenne. Donc c'est un peu comme si le président de la Commission européenne était le chef du gouvernement européen avec sa majorité. Et donc il y a des débats très importants, notamment également en France, sachant que du côté, si on a bien compris, gouvernemental actuel, on n'est pas très favorable à ce que cette opération de Spitzenkandidaten soit renouvelée. Mais le Parlement européen en fait une feuille de route sur laquelle il est intransigeant. Il a dit on n'acceptera jamais qu'il y ait une nomination du président de la Commission qui serait dans les seules mains des États. Et le Parlement veut être le moteur dans ce débat. Donc il y a, ce n'est même plus un débat entre pro-européens et anti-européens, c'est un débat pour savoir comment est-ce qu'on répartit les pouvoirs à l'intérieur de ces institutions européennes. Sachant que, évidemment, le PPE, actuellement majoritaire, a toutes les chances, compte tenu des forces en présence, des sondages dans les différents pays, d'être à nouveau le parti dominant au niveau du Parlement européen. Ce qui, pour, évidemment, certains pays qui ne sont pas de ce bord-là, ne sont pas tout à fait favorables à ce que cet état de fait perdure.
Oui, mais en
perdure.
Fait, c'est le rôle de la démocratie.
C'est voilà. La démocratie. Donc voilà, il y a beaucoup de débats qui sont actuellement sur la table. Et ceci a été...
Réjouissons-nous, parce que c'est preuve de démocratie. Et bien maintenant, nous allons faire une pause musicale.
Flower of my dreams, that you love me too. I hear your name. My heart aflame. I go insane. And out of blame. Passion flower, can't you see? It were meant just for me. Passion flower, please be fair. Love your lips. You show you care. Passion flower, take a chance. With me, find romance. I hear your name, I heard a flame. I go and sing, and you're the blame. Passion flower, hear me, please. Surrender to me.
Bienvenue en Europe, sur Radio Grand Ciel, bien sûr. Alors, nous évoquions cette possibilité d'avoir un président de la Commission qui serait l'émanation de la majorité dégagée au Parlement. Donc, on voit un système qui serait éminemment démocratique dans le sens que nous l'entendons en France et en Europe occidentale, disons-nous. Alors, justement, il se trouve que dans l'affaire polonaise, on voit les institutions européennes, la Commission, l'Europe, donc, dire à la Pologne, eh bien, il faudrait peut-être conserver aux Polonais leurs droits. Il y a le gouvernement allemand qui se constitue, là aussi, comment va-t-il se constituer, les élections italiennes. Et c'est vrai que Allemagne, Italie, France, c'est quand même les trois grands pays qui étaient à l'origine de l'Union européenne des six. Donc, on peut espérer que ces puissances historiques européennes vont poursuivre dans cette construction de l'Europe avec leurs partenaires, leurs 27 partenaires. Alors, parlons un peu.
Alors, commençons par l'Allemagne, par exemple, voilà, parce que c'est notre partenaire principal en tant que Français. La dernière étape du feuilleton de constitution d'un gouvernement issu de la future coalition entre la CDU, donc conservatrice de Mme Merkel, et du SPD de M. Martin Schulz. Les dernières nouvelles, c'est qu'il y a eu un accord de principe, mais avec même une répartition des portefeuilles, une feuille de route qui fait 170 pages, si mes souvenirs sont bons. Je ne l'ai pas lu, c'était rédigé en allemand directement, donc... C'est un peu difficile.
Donc, chers auditeurs, vous n'allirez pas, mais on peut en tirer quand même quelque chose.
Les dernières nouvelles, c'est que M. Schulz, qui est donc le chef des socialistes, qui a été le grand perdant des élections dernières, il y a quelques mois, donc a essayé de mettre sur pied un accord avec Mme Merkel, en disant qu'il n'avait rien à perdre et que si Mme Merkel voulait éviter qu'il y ait de nouvelles élections, eh bien, il fallait qu'elle conserve son poste de chancelier, il fallait absolument qu'elle lâche du lest du côté des socialistes. Et il a effectivement, le parti de Mme Merkel est fou furieux de voir ce qui est dans l'accord avec les socialistes, et notamment sur le plan social, le plan des dépenses à caractère social. Sur le plan de l'Europe, c'est un plus, parce que là, M. Schulz, qui est l'ancien président du Parlement européen, est très européen, il est même fédéraliste pour la création d'États-Unis d'Europe, donc il a misé beaucoup sur ceci. Donc le parti de Mme Merkel a accepté ce qu'il demandait, ce qui devrait faire plaisir notamment à la France, mais il y a un vote des militants du SPD, socialiste, qui doit se tenir le 4 mars prochain. Ils sont à peu près 450 000 à voter. Et ils sont furieux, eux aussi, de la manière dont M. Schulz a négocié, parce qu'il avait d'abord dit qu'il n'allait pour aucun cas faire un accord avec Mme Merkel. Et maintenant qu'il le voit dans le futur gouvernement, ça a fait un scandale. Ces derniers jours, M. Schulz a dit « j'abandonne tout ». Je démissionne de mon poste de président du SPD, et qui plus est, je ne rentrerai pas au gouvernement de Mme Merkel, où on m'avait promis d'être ministre des Affaires étrangères. Donc il a tout abandonné dans l'espoir que les militants du SPD acceptent l'accord avec Mme Merkel.
C'est ça donc, qui est le plus important, à vrai dire.
Et c'est ça qui est important. Donc il s'est remis dans les mains de ses militants en espérant qu'ils vont confirmer l'accord. Donc il est vrai que le départ de M. Schulz devrait faciliter cet accord. Il est remplacé par une dame dont je n'ai pas le nom sous les yeux, mais qui est une combattante et qui a une très bonne presse en Allemagne, alors que l'aura de Mme Merkel a énormément baissé ces derniers temps. Donc, on est dans l'attente de ce fameux vote. Si le vote était négatif, parce que rien n'est fait à l'heure actuelle, si le vote est négatif, l'Allemagne retourne vers les urnes.
C'est ce que j'allais dire.
Et ça veut dire qu'il faut encore attendre 3 mois avant qu'il y ait un résultat. Et ce résultat risque de faire ramener, justement, les partis dont personne ne voulait, à commencer par l'extrême droite, anti-européenne et purement nationaliste, qui ont déjà, dans le Parlement actuel allemand, gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de sièges. Donc l'affaire n'est pas du tout terminée, on pourra en reparler prochainement, mais espérons qu'enfin l'accord sera confirmé et qu'on pourra vous en parler avec plus de soulagement, parce que c'est vis-à-vis de l'Europe que nous nous plaçons, non pas d'une manière partisane, mais il est clair que sur le plan européen, si cet accord avec la CDU et le SPD peut se mettre en place tel qu'il a été prévu, eh bien à ce moment-là, on peut reparler d'une relance de l'Europe, et notamment avec le couple franco-allemand. Donc ça, c'est le point du côté de l'Allemagne. Et j'en profite pour repasser, vous aviez parlé de l'affaire de la Pologne.
Oui, c'est ça. Voilà. Et on repasse
au niveau du Parlement européen. On est toujours dans cette dimension démocratique. Le Parlement européen s'est prononcé pour soutenir une décision de la Commission européenne qui était tombée au mois de décembre, s'inquiétant de la violation, un risque clair de violation grave des valeurs européennes en Pologne. La Commission a donc pris une décision de mise en garde et qui impliquerait de déclencher l'article 7 du traité de l'Union qui peut, si il y avait une décision, là c'est compliqué parce qu'il y a le Conseil, les États, tout le monde doit intervenir, y compris le Parlement européen, mais qui met en garde, c'est jamais arrivé encore dans l'histoire de l'Europe, qui dit « attention, vous en Pologne, vous dépassez ce qu'il est permis de faire dans l'état de droit. Et en particulier, vous vous souvenez peut-être, on avait évoqué ce sujet il y a quelque temps, les nominations des juges dans les mains du seul gouvernement polonais,
Oui, ça contredit totalement
la presse qui est mise sous surveillance, contrôle, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et dans ce cadre, donc, le Parlement européen vient, lors de cette session, de soutenir la Commission européenne. Et sa Commission des libertés civiles a soutenu, par 33 voix pour et 9 seulement contre. Donc c'est un soutien total, qui n'a pas besoin de passer en plénière à ce stade. Mais donc c'est un signal du Parlement européen. Parallèlement, ce même Parlement vient de démettre de ses fonctions son vice-président, un vice-président polonais. Il se trouve que lors de cette session, il y a eu une bataille orale entre Polonais au sein du Parlement européen, une femme en particulier qui est pro-européenne, qui est dans l'opposition en Pologne, et qui met en garde l'Europe de tout ce qui se passe de mal, selon elle, en Pologne. Il se trouve qu'il y a notamment, ces derniers temps, une nouvelle loi en Pologne condamnant toutes les insultes qui pourraient être adressées aux Polonais sur leur attitude pendant la dernière guerre. Enfin, il y a tout un débat là-dessus en Pologne. Qui également rappelle des mauvais souvenirs à tout le monde. Or, il se trouve que ce vice-président polonais, lors de la session, a insulté directement cette collègue et il l'a traité de... Alors, le mot en polonais, ça, je ne garantis pas sa prononciation, smalkownik, mais il s'agit d'un terme qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui désigne les Polonais qui faisaient chanter les Juifs cachés et donc qui étaient pro-nazis. Donc, il y a, c'est un rappel à vraiment aux pires heures de l'histoire de l'Europe. Si on a construit l'Europe, et notamment avec un Parlement européen élu au suffrage universel, c'est justement pour tourner la page à toute cette période-là. Et donc, le Parlement a décidé et a voté directement et a démis de ses fonctions ce vice-président. Donc voilà, au niveau du Parlement européen, vous voyez que quand même, il se passe...
Un effort vers la démocratie. Alors pour terminer, bien rappelons qu'il y a les élections italiennes.
Les élections italiennes, juste un mot pour dire que là, d'après les sondages, eh bien, c'est plutôt la droite de M. Berlusconi qui risque de revenir au pouvoir. Alors on verra sous quelle forme, on pourra en reparler. Un dernier mot quand même pour dire le Parlement européen, parce que là ça touche un peu tous les citoyens, il vient de réclamer la fin du changement d'heure, de plus passer à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Et ça a un écho favorable chez beaucoup de monde et partout en Europe. Et également pour terminer sur une note positive, Galileo, vous savez, c'est un réseau de satellites européens. Eh bien, Galileo, à l'heure actuelle, a plus de 100 millions d'utilisateurs et c'est le futur programme GPS européen de navigation par satellite. Donc, on peut se féliciter que l'Europe, là, marque des points.
Eh bien, voilà, on termine sur de bonnes nouvelles. Eh bien, je vous dis, chers auditeurs, bonne semaine à tous. Au revoir.